France Musique.
Très belle journée à vous, Karine Le Bay, et à dimanche prochain.
France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, nous prenons la route cet après-midi de Bougival. C'est à trois quarts d'heure de la capitale, dans l'ouest parisien, le département des Yvelines. C'est ici que pendant une petite dizaine d'années, un peu moins, à partir de 1875, l'un des plus grands écrivains russes de sa génération, Ivan Tourguenieff, et l'une des plus grandes cantatrices du 19e siècle, Pauline Viardot, et avec elle, mari et enfant, ont pris leur quartier d'été. Tourguenieff adorait cette propriété des Frênes, son immense terrain, ses eaux chantantes, ainsi qu'il le disait. Il y a vécu ses derniers jours. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui dans l'air des lieux. Bienvenue.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыпется прахом, о, ты мой единственный друг.
En montant le sentier qui va de votre villa, madame, à votre datcha qui émerge de tous ces beaux massifs en fleurs, je goûtais la douceur de ce lieu que vous avez créé, le murmure des fontaines, le bruissement des feuilles, un lieu qui chante, un lieu qui vibre, les frênes, Bougival. C'est maintenant, pour moi, ce qu'est la Mecque pour les musulmans. C'est le but de mon pèlerinage.
Предстань тебе, из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобно тем слезам.
L'air des lieux, chez Ivan Tourguenieff et Pauline Viardot à Bougival, sur France Musique jusqu'à 17h.
О, ты мой единственный друг, о, ты, которую я любил так глубоко. Так нежно.
Marc Zwigilski, on ouvre avec vous ce nouveau numéro de l'Air des Lieux sur France Musique. On est ensemble, comme chaque dimanche, jusqu'à 17h. Et je vais vous laisser nous dire précisément où nous sommes, justement. Vous êtes le directeur du musée Tourguenieff. C'est une histoire qui a à voir, évidemment, avec Ivan Tourguenieff et Pauline Viardot. Mais c'est une histoire qui a à voir aussi avec votre famille.
Tout à fait. Écoutez, je vous remercie en tous les cas d'être venu ici pour parler justement d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est l'histoire quasiment de ma vie. Mes parents ont créé le musée Tourguenieff, donc il a été inauguré en 3 septembre 1983, précisément pour le centenaire de la mort d'Ivan Tourguenieff, qui s'est éteint dans une chambre qui a été restaurée par l'école Boulle, que l'on verra tout à l'heure. Donc 3 septembre, inauguration, il y avait plus de 300-400 personnes qui étaient présentes ici. Et ensuite, il a réellement ouvert ses portes 2 ans plus tard, en 1985.
Alors, on situe un peu les lieux. Nous sommes pas très loin de Paris. Nous sommes dans l'ouest parisien, à Bougival.
Voilà, on est donc à peu près à 20 minutes en voiture de Paris. Alors sachez qu'à l'époque de Tourguenieff et Pauline Viardot, justement, ils prenaient donc le train à partir de la gare de l'Ouest, on l'appelait, donc c'était la gare Saint-Lazare. Ils habitaient, ils avaient leur pied-à-terre, leur résidence principale aux 50 rue de Douai. Et ils venaient en effet à partir donc de la gare Saint-Lazare actuelle. Et on peut venir d'ailleurs encore aujourd'hui à partir de la gare Saint-Lazare. On descend à la gare de Bougival. À l'époque de Tourguenieff et Pauline Viardot, ils venaient jusqu'à Ruelle Malmaison. Et à partir de Ruelle Malmaison, ils prenaient donc soit un tramway, enfin un omnibus plus précisément. C'était un tramway tiré par des chevaux qui les desservait précisément en bas de la propriété, une propriété qui était énorme. La grille se trouvait en bas, donc c'était un domaine qui faisait 8 hectares et demi. Et donc, ils venaient soit par ce biais, soit à la gare de Rueil-Malmaison, ils prenaient également la mouche, c'est-à-dire un bateau qui les amenait justement et qui les servait juste en face de la propriété.
On est ici, Marc Zwigelski, alors devant le musée, devant la datcha, et puis devant une statue que j'aimerais bien que vous nous décriviez.
Donc, c'est une sculpture qui est signée de la main de Grigori Potocki. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette sculpture, sa grande sœur, en quelque sorte, existe à Moscou, à l'Institut des Relations Internationales à Moscou. Elle est plus grande, elle est plus imposante. D'un côté, sur un versant, nous voyons justement Pauline Viardot, et de l'autre, nous voyons Tourguenieff. Et il y a un trou qui intrigue très souvent les visiteurs. De quoi s'agit-il ? Il s'agit finalement du trou qui est à l'emplacement du cœur d'Ivan Tourguenieff. C'est le trou béant, la souffrance, comme ça, à travers les siècles, qui est là, qui est marqué par l'artiste Grigori Potocki.
D'ailleurs, cette statue, c'est intéressant parce que d'une certaine façon, elle esquisse, et mieux que ça, mais elle esquisse tout de même les traits de Pauline Viardot. Peut-être qu'elle nous explique les raisons pour lesquelles le jeune Tourguenieff, un jour à Saint-Pétersbourg, est tombé amoureux fou de Pauline Viardot et d'une certaine façon ne l'a plus quittée pendant les 40 années qui allaient suivre. Elle ressemblait à quoi, Pauline Viardot, exactement ?
Alors, à la différence de sa sœur, la Malibran, qui était une femme extrêmement belle, on disait plutôt qu'effectivement, elle était laide, Pauline Viardot. Mais quand on apprécie finalement les différentes représentations, dessins, peintures la concernant, finalement, on voit qu'il y a certaines peintures qui la mettent vraiment en avant, qui mettent sa beauté en avant. Et il s'agit plus finalement d'une beauté intérieure, d'un charme extraordinaire, d'une intelligence de cœur, d'esprit. Une personne qui maîtrisait énormément de langues, qui avait une voix de mezzo-soprano absolument extraordinaire, qui avait en quelque sorte relevé un défi, c'est-à-dire de marcher sur les pas de sa sœur, la Malibran, lorsqu'elle s'est éteinte en 1836. Normalement, elle était vouée à être pianiste, Pauline, au départ. Elle a eu comme professeur de piano Franz Liszt, ça a été durant son premier amour. Et donc, dans la famille, il y avait les rôles étaient bien réparti. Et Pauline, lorsque effectivement elle a rencontré Ivan Tourguenieff en 1843, à la fois elle est tombée sur un très bel homme et Tourguenieff est tombé sur une personnalité extraordinaire.
Et on rappelle quand même le contexte, un peu les origines familiales. On cite Malibran, on cite Pauline Viardot, on cite Pauline Garcia en réalité, avant qu'elle épouse Louis Viardot, le directeur du théâtre italien. On rappelle un peu les origines et le père de ces deux jeunes femmes.
Tout à fait, voilà. Donc elle est issue d'une famille de grand musicien, Manuel Garcia père, marié à Joaquina Sitchez. Il est né à l'époque justement de Mozart, de Gluck. C'est vraiment un trait d'union, Manuel Garcia, entre le 18e et le 19e siècle. Il avait sa tribu. Ses enfants donc ont été très très jeunes initiés à la musique. Donc Maria, à l'époque, donc on a fait les frais puisque à chaque leçon de musique, elle recevait un soufflet de la part de son père. Elle venait en pleurs à ses leçons de musique. C'était un véritable traumatisme. Elle avait un régime particulier. Pauline, de 13 ans, plus âgée, a été épargnée. Elle a reçu une fois un soufflet de son père. Mais elle en a un souvenir sur le tard un peu plus vague. Et puis le troisième enfant, Manuel Garcia, fils, qui est l'auteur d'un traité sur l'art du chant, qui est vraiment une référence pour tous les musiciens, tous les musicologues actuellement, et qui est le père du laryngoscope. Nous avons d'ailleurs tous ces objets cités dans le musée. Donc en effet, Pauline Viardot, en 1836, normalement était vouée à être pianiste, mais c'est Joaquina Sitchez, sa mère, après le décès de Maria, qui a demandé à Pauline, voilà, il nous faut une cantatrice dans la famille. C'est vrai que la carrière du pianiste dans ce monde très misogyne, ce n'était pas évident. Il y a Clara Schumann, qui est une rare exception, amie également de Pauline Viardot, mais il était plus logique, d'autant plus que Pauline Viardot, comme le dira Maria, finalement, avait des talents extraordinaires. Elle le sentait déjà, elle sentait qu'en effet, elle avait vraiment les prémices d'une grande cantatrice. Et lorsqu'elle s'est produite, quelques années plus tard, en 1840, Berlioz dira, elle a surpassé, en quelque sorte, on ne pouvait pas s'empêcher de faire la comparaison avec Maria Malibran, et Berlioz dira qu'elle a même surpassé en quelque sorte sa sœur dans les basses. Des basses plus rondes, voilà, plus généreuses.
Il mio cuore,
Alors, si on remonte un peu aux origines et au début de cette histoire entre Pauline Viardot et Ivan Tourguenieff, Marc Wigelski, 1843, Saint-Pétersbourg, elle aussi est une très jeune chanteuse et il l'entend dans une pièce que je vais vous laisser nous dire, dans un rôle que je vais vous laisser nous dire et au fond nous raconter un peu les circonstances de ce coup de foudre de Tourguenieff pour cette jeune chanteuse.
Alors, Pauline Viardot arrive avec son mari à Saint-Pétersbourg, hiver 1843.
On rappelle qui est son mari et alors, dans quelles circonstances ils se sont mariés.
Absolument, ça il faut l'évoquer également avant d'arriver à cet épisode-là. Il faut savoir que Pauline Viardot a été engagée donc ici à Paris au Théâtre Italien, qui est le directeur de cette institution, c'est Louis Viardot. Elle a eu un succès tout de suite immédiat. Musset est présent dans la salle, tombe amoureux de Pauline Garcia à l'époque. Georges Sand, qui avait suivi également la carrière du père de Maria Malibran et qui tombe cette fois-ci sur Pauline, elle se fait finalement sa protectrice. Elle lui écrit des articles dithyrambiques, ainsi que Musset. Et elle va avoir un rôle déterminant justement dans le destin de Pauline. Elle va aller voir sa mère en lui disant « Bon, ben, Musset, en effet, est un prétendant, mais je le connais bien. C'est une belle plume, mais c'est un homme bien trop léger. Par contre, je vous recommande Louis Viardot, qui est directeur du Théâtre Italien de Paris, qui a écrit plusieurs ouvrages que nous exposons. Donc, les musées d'Espagne, d'Italie, de France, c'est le père des guides. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on voyage, on achète les guides du Routard, n'est-ce pas, ou guides de Michelin ou autre. Eh ben, le précurseur de ces guides, c'est Louis Viardot, qui a recensé tous les sites, tous les musées. Ce sont des ouvrages très précieux. Donc, un homme, effectivement, un expert en art, qui a traduit également le Don Quichotte de Cervantes. Aujourd'hui, sa traduction est une référence. Et donc, en effet, c'est un homme solide. Donc, Pauline Viardot s'est vraiment engagée. C'est un mariage de raison, mais toute leur vie durant, Louis et Pauline Viardot vont remercier en effet Georges Sand pour son bon conseil.
Parce qu'il y a pas mal de différence d'âge entre les deux. Hein.
Exactement, il y a 20 ans de différence entre Pauline et Louis Viardot. Donc être directeur de sa propre épouse, c'est un peu difficile. Il y a eu en effet beaucoup de jalousie au sein du Théâtre Italien de Paris, si bien qu'il a été obligé d'abandonner son rôle de directeur pour se consacrer à la carrière de Pauline. Donc il a organisé de nombreuses tournées à travers l'Europe et la tournée la plus significative en quelque sorte, c'est l'hiver 1843 lorsqu'ils arrivent à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc ils arrivent à Saint-Pétersbourg, au Théâtre Impérial de Saint-Pétersbourg, et là, dans cette salle, la salle est comble, l'empereur et l'impératrice sont là, Ivan Tourguenieff également là, au poulailler,
oui, tout en haut.
Écoute, en effet, Pauline incarner le rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville de Rossini. Alors c'est un opéra qu'elle connaît très très bien, puisque le rôle d'Almaviva, eh ben Manuel, son père, l'avait incarné. C'est le premier Almaviva, qui est un contemporain de Rossini. Et dans cet opéra, il y a une place justement à l'improvisation, lors de la leçon de musique. Or, tantôt, elle y glissait justement des airs de son père, Manuel Garcia, soit tantôt des airs également de sa sœur, Maria. Et là, elle en profite pour glisser justement des chants populaires russes. Ça a eu en effet un impact extraordinaire et elle a eu vraiment un succès phénoménal. On attendait le signal de l'empereur et de l'impératrice qui ont jeté une gerbe de fleurs sur la scène. Elle a eu vraiment une montagne de fleurs qui a recouverte la diva. Et Ivan Tourguenieff crier plus fort que tout le monde, vive Pauline Viardot, vive Pauline Viardot.
Il y a beaucoup d'histoires sans doute aussi un peu romancées autour de ce début de la relation entre Tourguenieff et Pauline Viardot, mais enfin il fait tout très vite pour être présenté à elle et présenté à la famille, à Louis Viardot. Ça se passe comment, la première rencontre entre elle et lui?
Alors oui, en effet, c'est anecdotique puisque dans un premier temps, on va convier Ivan Tourguenieff à une partie de chasse. Louis Viardot a écrit un ouvrage que nous exposons qui s'appelle « Souvenirs de chasse ». Il a parcouru l'Europe entière, il nous dépeint justement les différentes techniques de chasse. Et il en profite dans cet ouvrage également pour nous parler des us et coutumes de tous les peuples qu'il rencontre. Et là, c'est intéressant parce qu'à Saint-Pétersbourg, il va pouvoir chasser l'ours. Et on demande à Ivan Tourguenieff justement de l'accompagner. Il maîtrise très bien le français, c'est un enfant de la noblesse. Lui aussi comprend très bien l'univers de la chasse. Lui-même est un grand chasseur. Enfin bref, il y a beaucoup de points de convergence entre les deux hommes. Si bien que lors de cette partie chasse, ben, finalement, les deux hommes s'entendent très très bien. Et très naturellement, Louis Viardot invite Ivan Tourguenieff dans la loge de son épouse. Alors là, je vous invite à lire Troya. Il y a cet épisode qui est fameux, puisque nous avons justement par terre la peluche d'un ours blanc. À chaque extrémité des pattes, il y a des griffes dorées. Sur chaque griffe, il y a un siège. Sur chaque siège, il y a un admirateur. Pauline Viardot, sur un sofa, est allongée, écoute ses admirateurs la distraire. Et à Ivan Tourguenieff, on a attribué la patte numéro 3. Qui est un peu plus éloigné que la patte numéro 1 et 2. Et Ivan Tourguenieff, donc en 1843, n'est pas devenu encore l'écrivain qu'il va devenir 10 ans plus tard, en 1852. Bon, il s'est initié à la poésie, on est en pleine époque du romantisme, et il semblerait, d'après les témoignages de l'époque, finalement, il n'ait pas produit l'effet escompté. Pauline serait ressortie de cette entrevue en disant « Mais quel est ce grand dadais, en parlant d'Ivan, quel est ce grand dadais qui fait d'aussi mauvais vers ?» Voilà. Donc ça a été en effet la première impression de Pauline à l'égard d'Ivan. Et puis ensuite, bon, ben, finalement, il est venu tous les jours pour applaudir Pauline, il est venu tous les jours pour distraire la diva, et on s'est aperçu que c'est un conteur hors pair. Il avait vraiment ce talent, ça s'est vérifié aussi bien en Russie, d'ailleurs, que ce soit les salons à Moscou, Saint-Pétersbourg, à Paris, quel que soit le lieu. En effet, Ivan Tourguenieff est un globe-trotteur. C'est certainement l'écrivain au 19e siècle qui a le plus voyagé. Il maîtrisait donc 12 langues européennes, toutes les langues slaves, le latin et le grec. Donc là, vraiment, c'est le plus polyglotte des écrivains du 19e siècle.
Ça veut dire que la relation alors débute après que Pauline Viardot reste un peu indifférente à ce grand dadais de Tourguenieff. Mais alors, du coup, la relation vraiment entre les deux débute à quel moment ?
Là, ça va arriver très très vite finalement. C'est-à-dire que c'est une question de jours, de semaines. Hein, vraiment, ils sont séduits par l'homme qui n'a pas montré tout son talent de prime abord comme ça, dès la première rencontre. Mais ils ont senti effectivement qu'il y avait chez lui un potentiel extraordinaire. Sachant d'où il vient, effectivement, il vient d'Aurel, de Spasskoyé, de la campagne. Il a fait ses études à Berlin. Voilà, c'est un puits de science et de connaissances. Et puis à l'époque, effectivement, la Russie du 19e siècle, c'est une Russie tournée vers l'Europe. Donc ils sont impressionnés à tel point que 2 ans plus tard, en 1845, démarre d'ailleurs la correspondance à partir de ces dates-là, de 1843, et en 1845, voilà, Ivan Tourguenieff, ici en France, il est arrivé invité par la famille Viardot au château de Courtavenay-Lambris, donc un château qui se situe dans le département de la Seine-et-Marne. Ensuite, les Viardot, réfractaires finalement au régime de Napoléon III, ont quitté la France et sont partis vivre à Baden-Baden. Il était prévu de s'installer définitivement à Baden-Baden. Louis Viardot a envoyé une lettre à Ivan Tourguenieff, l'invitant à venir les rejoindre. Ils sont partis avec les enfants également. Il y a 4 enfants dans la famille Viardot. Donc il y a Louise, l'aînée, Claudie, Marianne et Paul. Tous musiciens. Paul sera violoniste et Claudie a un talent supplémentaire. Elle est également peintre. On peut voir ses œuvres, notamment dans le musée. Donc période de Baden-Baden, période faste, période idyllique pour cette triangulaire très particulière. Mais en effet, Ivan Tourguenieff se sent comme un coq en pâte. Il fait construire une villa de style Louis XIII juste à côté du cottage de la famille Viardot. Dans chacune des maisons, il y a une scène. Et Pauline Viardot, qui a mis fin justement à sa carrière de cantatrice en 63 avant de partir à Baden-Baden, là va se consacrer à l'enseignement de la musique et à la création. On a beaucoup de ses amis, Saint-Saëns, Berlioz, Liszt, Chopin, ont incité Pauline à créer. Elle a en effet un talent extraordinaire et ça va être dans l'histoire de la musique la première femme à composer des opérettes, et ce, sur des livrets d'Ivan Tourguenieff. Donc ces opérettes, une fois créées, sont tout de suite montrées, produites sur ces scènes, scènes de leur maison. Et Ivan Tourguenieff également monte sur les planches, incarne des personnages. Alors il y a eu notamment trop de femmes, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de femmes, et trop d'ailleurs, donc ça a donné lieu au nom de cette opérette. Il va y avoir l'ogre, il va y avoir le dernier sorcier, qui était certainement l'opérette qui a eu le plus de succès.
D'entrée, Marc Zagielski, est-ce qu'on peut un peu, d'une certaine façon, mais décrire ce qu'était l'ambiance des années ici dans cette propriété des Fresnes, mais des années où les Viardot et Tourguenieff vivaient ici, se recevaient les uns et les autres, d'une certaine façon, recevaient aussi tout ce qui était le monde culturel et littéraire en particulier de l'époque, mais au fond, quelle était l'ambiance ici de cette grande propriété ? On est ensemble avec vous aujourd'hui.
Alors l'ambiance était vraiment extrêmement émouvante, puisqu'on entrait par le bas, il y avait une grille en bas qui permettait donc l'accès à cette grande propriété. Il y avait des fontaines ici et là, éparpillées dans la propriété, des arbres centenaires, des frênes, et ils venaient bien évidemment au printemps, l'été. Ils ont organisé plusieurs fois des matinées littéraires et musicales dans le salon de la Villa Viardot. Il y a eu la deuxième symphonie de Borodine qui a été jouée dans la Villa Palladienne, dans la Villa Viardot. Il y a eu en 1882 la représentation justement du dernier sorcier, là c'était vraiment pour se faire plaisir. Et puis dans la datcha, il y avait en effet un piano qui était là. Alors on a également un piano qui a appartenu à Ivan Tourguenieff, c'est pas le piano qu'il avait ici à Bougival, c'est un piano qui nous vient justement de Baden-Baden. Donc Ivan Tourguenieff se levait à une heure bien précise et il prenait le thé, il se mettait à son bureau. Il écrivait, et très souvent il s'occupait de sa correspondance. Et ensuite, dans l'après-midi, on se retrouvait autour d'un samovar, autour du thé, et on lisait des œuvres, on lisait des livres, donc ce soit l'éducation sentimentale de Flaubert, Gaboriau, qui à l'époque était aussi un écrivain policier, qui interpellait beaucoup Tourguenieff et la famille Viardot, du Victor Hugo, du Maupassant, bien évidemment, aussi, qui était un ami qui est venu, d'ailleurs, dans ce chalet. Il était extrêmement impressionné par le style de Tourguenieff.
Alors on va peut-être découvrir l'intérieur hein, de ce musée Tourguéniev, Marc Zwigilski, dont vous êtes le directeur, et peut-être revenir quand même à votre histoire et à celle de vos parents, et au fond comment votre père et votre mère ont découvert ce chalet, cette maison dans laquelle habitait Tourguéniev, au point d'en faire un musée et une association des amis de Tourguéniev, de Pauline Viardot et de Maria Malibran. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Vous étiez tout petit, tout jeune à l'époque.
Cette maison, je l'ai connue, oui, quand j'étais tout jeune avec mon frère, qui s'appelle Vladimir. Et on venait avec mes parents. Ici, il y avait un squat. Monsieur Sabatier, qui était un diplomate à la retraite, occupait la villa paladienne. Et il avait laissé, en quelque sorte, à l'abandon, en tous les cas, sa maison, la maison anciennement de Tourguéniev, donc qui était ouverte pour les artistes. Et des artistes venaient ici, mais finalement, ils détérioraient la maison.
Donc ça, c'était dans les années 70.
Mais avant cet épisode, mon père était venu en 1956, précisément. Et c'est à cette occasion qu'il avait découvert la propriété. Et alors il avait vu le neveu de Gaby Morlaix, qui était locataire de la Villa Palladienne, l'actrice française.
Donc Villa Palladienne, Villa Viardot.
Villa Viardot, voilà, ouais. Villa Palladienne, Villa Viardot. Et là, en effet, il avait aperçu ce lieu absolument extraordinaire, avec des arbres centenaires, avec en effet cette belle Villa Palladienne qui avait été construite en 1830, le chalet de Tourguéniev, donc qui est fait également de bois. Il y a cette balustrade à l'époque aujourd'hui elle a été restaurée, puis maintenant elle est de nouveau endommagée puisque ça fait 30 ans que le musée a été créé.
Donc c'est davantage chalet suisse qu'une datcha russe d'une certaine façon.
C'est un mixte des deux, puisqu'il avait dit effectivement de cet architecte qui a conçu son chalet en 1874 que finalement cet homme est tout à fait capable et honnête, mais il manque d'imagination. Il attendait plus quand même de l'architecte, donc il avait fait des aménagements, et vraisemblablement les aménagements qu'il avait fait, c'était au devant de cette maison. Cette balustrade, ces balcons que nous voyons ici.
On va entrer dans cette ex-maison de Tourguéniev et aujourd'hui musée Tourguéniev dont vous êtes le directeur, Marc Zwigilski.
Thank you.
des lieux qui se poursuit sur France Musique. On est ensemble jusqu'à 17h. Nous sommes chez Tourguenieff, à Bougival. On est avec vous, Marc Zwiglski, qui est le directeur du musée Tourguenieff. On a fait le tour de la maison. Ça n'était pas le cas, j'imagine, lorsque les Viardot ou Tourguenieff, ou réciproquement, mais se visitaient. J'imagine qu'ils entraient par l'endroit où nous étions tout à l'heure. Hein, c'est
absolument,
ça
tout à fait. Vous avez vu les vitraux. C'était l'entrée principale. Là, en effet, c'est l'entrée du 20e siècle, en quelque sorte, pour les visiteurs du 21e siècle. Donc, cette pièce est autrefois une salle d'eau.
Alors on va découvrir la pièce suivante, justement, donc ancienne mansarde à manger.
Voilà, anciennement salle à manger, donc c'est une salle qui est une évocation de Tourguenieff et la Russie. Donc on voit au mur une pléiade d'écrivains russes et contemporains d'Ivan Tourguenieff, à commencer par Pouchkine, Lermontov, Gogol, Belinsky, Tolstoï, Dostoïevski, Saltykov, Chédrine. Et puis également une autre thématique très importante qui est liée donc aux droits de l'homme. Alors que ce soit son combat pour l'abolition du servage, donc qui est illustré ici par ce tableau qui représente le tsar réformateur Alexandre II, qui le 19 février 1861 a libéré 50 millions de moujiks sur une population de 61 millions de sujets.
Et juste à côté de cette représentation que vous évoquiez, Marc Zwiglski, donc de l'abolition du servage par Alexandre II, il y a ce dessin qui est assez connu, d'ailleurs assez célèbre, hein, du jeune Tourguenieff, on peut dire, par Pauline Viardot. Il était beau, Tourguenieff, quand il était jeune. On peut avoir des doutes sur la beauté réelle de Pauline elle-même, pouvoir de séduction et de fascination, assurément. Beauté, pas forcément. Lui était joli garçon.
Absolument, tout à fait. C'est un bel homme, comme dira Dostoïevski, grand, beau, riche, érudit, intelligent. Cet homme a toutes les qualités.
Il avait tout pour lui plaire.
Il avait tout pour lui plaire à elle, absolument, tout à fait. Et ce dessin est extraordinaire parce qu'on a d'autres représentations d'Ivan Tourguenieff. Alors, c'est très souvent le penseur, l'intellectuel. Et là, on sent en effet chez Tourguenieff l'âme du poète. Il y a également la représentation de Spassky Lutovinovo, qui est sa maison natale. Il a vécu toute son enfance à 40-50 kilomètres d'Orel, qui est une ville de province qui se situe au sud de Moscou. Et c'est là, cette occasion, en tous les cas, pendant toute cette période de sa vie, donc son enfance, qu'il a été très proche des moujiks. La mère de Tourguenieff, dont on voit ici le portrait, Varvara Petrovna, possédait 10 villages et 5000 serfs. Et dans ce recensement, on ne compte ni les femmes ni les enfants. Donc Ivan Tourguenieff a eu, comme tous les enfants de la noblesse, des précepteurs étrangers. Son père, qui a suivi une carrière militaire, qui a combattu d'ailleurs les armées de Napoléon, qui est venu ici en France, qui était lui aussi très favorable à l'Occident, et puis voyant effectivement la sauvagerie des armées napoléoniennes, a déchanté. Donc quand il est revenu, il était très très sensible finalement à un retour à la culture russe. Et c'était d'ailleurs au début du 19e siècle une tendance qui commençait à arriver de façon très significative. Donc il a demandé à ses enfants, on voit la représentation également de son frère ici, Nicolas et Ivan Tourguenieff, son frère qui a suivi la même carrière que son père, une carrière militaire, et il avait demandé donc à ses enfants de tenir un journal, premier jour en russe, deuxième jour en français et troisième jour en allemand.
On continue à découvrir cette maison.
Merci.
Voilà. Alors, on va peut-être s'arrêter sur cette affiche, tenez, parce qu'elle est importante. Hein. Vendredi 7 novembre 1980 à 20h30, salle Pleyel, un récital de Sviatoslav Richter. Marc Zwiglski, c'est important, pourquoi ?
Alors en effet, c'est une personnalité qu'on a eu le bonheur, l'honneur de rencontrer, qui a accepté de jouer donc à cette date, c'est-à-dire le vendredi 7 novembre 1980, au profit de la création du musée Tourguenieff. C'est-à-dire que les deux pièces que nous allons voir au premier étage, qui ont été restaurées par l'école Boulle, ont pu être réalisé grâce à, en effet, ce concert. Tous les bénéfices de ce concert ont été directement au profit de la création de ces deux pièces.
Voilà. Et 2015 est une année particulière, en plus, dans le cas de Sviatoslav Richter, puisqu'on célèbre le 100e anniversaire de sa naissance. Hein. C'était Exactement. Il y a quelques semaines, quelques mois.
Absolument. Et dès qu'on rentre dans cette pièce, impossible de ne pas remarquer l'objet qui trône au milieu de cette pièce. C'est le piano forte d'Ivan Tourguenieff qui nous vient de Baden-Baden. C'est un piano classé à l'inventaire des monuments historiques sur lequel ont joué Clara Schumann, Johannes Brahms, Anton Rubinstein, Pauline Viardot. Ivan Tourguenieff avait demandé à ce qu'il y ait un piano ici. D'ailleurs, il ne vivait jamais sans piano. Hein. C'était le cas aussi bien en Russie, à Spasskoye, à Moscou, à Baden-Baden et ici, à Bougival. Sachez que rue de Douai, il habitait au-dessus du salon des Viardot. Donc il avait conçu un tuyau acoustique pour être baigné en permanence la musique qui émanait justement du salon des Viardot. Donc ça, il ne pouvait pas se passer de musique. Il estimait que la musique, c'était quelque chose, effectivement, qui l'avait ému plus que tout, plus que les autres formes artistiques. Que ce soit la poésie, que ce soit la peinture, c'était avant tout la musique qu'il mettait sur un piédestal. Donc très souvent, les matinées musicales et littéraires avaient lieu, alors le jeudi, rue de Douai, pour un public assez large, et puis pour les intimes, ça avait lieu le dimanche. Il pouvait y avoir effectivement des matinées littéraires et musicales dans la Villa Viardot. Ivan Tourguenieff, ici, réservait cet endroit pour la famille Viardot.
C'est une petite pièce, hein, enfin, c'est somme toute, voilà. C'est une pièce relativement petite. Oui.
Et donc on peut voir, justement, le salon rue de Douai de la famille Viardot, où trône un orgue Cavaillé-Cole. Et donc on voit Pauline Viardot, ici, assise sur cet instrument. Elle pouvait en effet jouer du piano, jouer de l'orgue, et son public, tout le public était fortement impressionné par les capacités artistiques de cette grande artiste. Dans cette pièce, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce qu'en effet, il y a à la fois l'univers de Pauline Viardot, l'univers de la famille Garcia, dont on voit ici le portrait de Manuel, exécuté par Goya. Nous avons ici dans la vitrine murale, justement, l'évocation aussi bien à la Malibran, à Pauline Viardot, que à Manuel Garcia, fils, dont on voit ici le traité complet sur l'art du chant. On voit également les instruments qu'il a conçus, le laryngoscope. Il y a l'écritoire de Pauline Viardot, écritoire donc où elle conservait les lettres d'Ivan Tourguenieff. On voit un album musical portant justement le chiffre de Pauline Viardot. Il y a deux assiettes également qui lui ont appartenu.
Et ceci qui rappelle donc la Norma de Maria Malibran, mais ceci juste derrière nous qui est un portrait de sa sœur, donc Pauline Viardot, dans un rôle d'ailleurs que Tourguenieff, sauf erreur de ma part, mais aimait beaucoup l'entendre, c'est la Somnambule de Bellini. Donc tout ça, plus les rôles qu'on a dit tout à l'heure que chantait Pauline Viardot, on dit long sur la tessiture et quand même la voix, d'une certaine façon, extraordinaire de Pauline Viardot, qui pouvait chanter des rôles qu'on penserait aujourd'hui totalement incompatibles.
Absolument, deux octaves et demie hein, de tessiture, donc quelque chose d'absolument unique, extraordinaire. On peut voir ici le portrait de Bellini, qui trône au-dessus de la vitrine de la Malibran, avec l'album des Puritains de Bellini, le portrait également de Charles-Auguste de Berriot, qui est le dernier mari de la main Libran. Là, il s'agissait pour elle d'un véritable engagement d'amour. Et Charles-Auguste de Berriot était violoniste, un violoniste belge, qui était totalement épris et qui, ils ont eu tous les deux un enfant, Charles Wilfried de Berriot, qui est devenu pianiste et qui est devenu le professeur de piano de Maurice Ravel.
Et ceci qui est très émouvant aussi, qui est le masque, enfin une photographie du masque mortuaire de Maria Malibran, dont on rappelle qu'elle est disparue évidemment extrêmement jeune, ce qui a fait aussi en partie son mythe, en tout cas une des raisons pour lesquelles on revient vers son destin et vers sa carrière qui a été comme ça extrêmement courte et foudroyante, au contraire d'une Pauline Viardot, sa sœur, dont la carrière a été évidemment plus longue, et la vie surtout, qui a traversé quasiment tout un siècle jusqu'au début du 20e.
Absolument. La Malibran a eu un accident de cheval alors qu'elle était à Manchester, donc en Angleterre, et on lui avait demandé de se reposer, de prendre soin d'elle. Non, elle avait insisté pour se produire, elle voulait surtout pas décevoir son public. Et c'est une aventure malheureuse qui a duré sur plusieurs mois, 2-3 mois, et elle est comme Molière en quelque sorte, hein, c'est d'où la légende en effet. À l'âge de 28 ans, en 1836, elle s'est éteinte. Ça a été effectivement un traumatisme pour tous les amoureux de l'opéra, de l'art lyrique, ceux qui avaient entendu en effet La Malibran. Lamartine a écrit un très beau poème qu'on peut voir donc sur sa tombe. Amour, beauté, génie sont le nom de femme de La Malibran. Elle incarnait en effet ces trois belles choses. Un objet qui est également dont on est très très fier, hein, qui est justement le portrait de la Malibran par Louis-Eugène Coedest en 1835. Elle avait en effet la beauté pour elle, ce qui n'était pas le cas de Pauline.
On poursuit notre visite.
Oui.
On grimpe à l'étage.
On grimpe,
c'est ça.
À l'étage.
Lasciate
Dans cette pièce, il y a la tenture rouge, il y a les meubles du style Napoléon III qui sont également présents. Nous avons une très très belle bibliothèque signée Paul Mazarose qui avait été exposée à l'exposition universelle en 1867. Alors scientifiquement, on ne peut pas être catégorique. A-t-elle appartenu à Ivan Tourguenieff ? On ne sait pas, mais en tous les cas, elle s'inscrit tellement bien dans ce cadre qu'on pourrait penser qu'en effet, qu'elle est appartenue à Ivan Tourguenieff. En revanche, nous sommes très très fiers d'un élément ici qui est central dans cette pièce, c'est le bureau sur lequel Ivan Tourguenieff a écrit ses dernières œuvres.
Ici à Bougival, Marc Zwiegelski, il y a un nom qu'on n'a pas encore cité parce que nous sommes dans la maison de Tourguenieff, nous sommes tout à côté de celle de la famille Viardot, donc dans cette propriété des Fresnes, mais pas très loin d'ici, j'oserais dire à quelques centaines de mètres d'ici, il y a la maison d'un compositeur qui est Georges Bizet, qui a passé lui aussi ses tout derniers jours ici et qui a composé Carmen ici à Bougival. Est-ce qu'ils se fréquentaient, est-ce qu'ils se connaissaient bien les Viardot, Tourguenieff et Georges Bizet, Marc?
Oui, absolument. Ils se connaissaient très très bien, d'autant plus que Bizet avait aussi son pied-à-terre dans le quartier de la Nouvelle-Athènes. Donc c'était en effet des amis très proches. Ensuite, ils ont assisté à la représentation de Carmen. Ils étaient particulièrement émus par l'opéra. Donc on sait effectivement que ça a été un fiasco pour Bizet, ce qui a entraîné en quelque sorte un état d'esprit, un état d'âme qui était plutôt sur le déclin, donc il y a raison psychologique et raison également physiologique de son départ, mais il est mort en effet dans la maison là qui est en bas à côté de la propriété des Fresnes en juin 1875, et la famille Viardot et Ivan Tourguenieff quelques mois plus tard se sont établis ici aux Fresnes.
On poursuit la pièce qui est de l'autre côté.
Absolument.
et qui est
la chambre d'Ivan Tourguenieff. Voilà, donc là aussi, on est effectivement dans l'univers du 19e siècle.
Et on y est complètement, hein, si on peut me permettre. On y est complètement, en plus, on entend l'atmosphère du parc à l'extérieur, les fenêtres sont ouvertes, le balcon qui donne sur cette chambre, on y est.
On y est, absolument. Et d'ailleurs, les moindres détails ont leur importance. J'attire votre attention sur cette gravure qui a été exécutée par Claudie, représentant Ivan Tourguenieff sur son lit de mort, hein, mais on a pu reconstituer cette pièce grâce à ce document. Autant l'autre, c'est un témoignage écrit, là, on avait un témoignage visuel. Donc, à quelques détails près, là, on est très, très, très proche. Même la fenêtre, quand il fait beau, on en profite pour l'ouvrir, justement, pour être au plus près. Là, il aurait fallu ouvrir encore l'autre battant. On était pile poil dans ce que vous voyez ici sur la gravure. Donc, ici, on évoque, en effet, les dernières heures, les dernières semaines, les derniers jours d'Ivan Tourguenieff. Sachez que Maupassant est venu ici à Bougival. Et Ivan Tourguenieff lui avait demandé un revolver, tellement il souffrait le martyr. Il était atteint d'un cancer de la moelle épinière, on lui administrait des piqûres de morphine, donc quelle que soit la position, assis, debout, couché, Ivan Tourguenieff souffrait, c'était très très difficile. Pauline Viardot l'assistait, elle était toujours présente. Ivan Tourguenieff tenait contre son cœur un médaillon que nous avons ici dans la vitrine, représentant justement Pauline Viardot avec son ex-libris au verso, IT. Donc on imagine en effet le sentiment, la profondeur du sentiment d'Ivan Tourguenieff à l'égard de Pauline, qui était tout pour Ivan. C'était à la fois une seconde mère, c'était à l'incarner cette autre famille finalement avec Louis Viardot, une sœur, une amie. Et en effet, comme je le disais tout à l'heure, finalement Pauline Viardot a tiré Ivan Tourguenieff vers les hauteurs de l'amitié. Ivan Tourguenieff était un peu plus désordonné, beaucoup plus épris que Pauline Viardot. C'est une femme, finalement, qui a voué toute sa vie à l'art, et puis elle tenait vraiment au lien qu'elle entretenait avec tous ses amis. Mais quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est en effet basée sur une grande admiration réciproque. Et les derniers mois de la vie d'Ivan Tourguenieff, il va dicter deux récits à Pauline Viardot. Donc nous avons notamment le manuscrit d'un des récits, d'un incendie en mer, et il y en a un autre qui s'appelle Une fin. Alors Ivan Tourguenieff observe finalement la métamorphose qui a lieu dans son propre pays, et sent qu'effectivement il y a un vent révolutionnaire qui arrive à grands pas. Et Une fin, c'est un récit prémonitoire sur le destin de la Russie. Donc Pauline Viardot, en effet, Ivan Turgenev ne pouvant plus écrire, elle-même écrivait ce que lui dictait Ivan Turgenev.
Donc ça, c'est l'écriture de Pauline.
Et ça, c'est l'écriture de Pauline, absolument. Voilà, donc on a également une fin, là, le dernier récit d'Ivan, le cancer de Turgenev. Et lorsque Ivan Turgenev s'est éteint le 3 septembre 1883, Louis Viardot était décédé quelques mois plus tôt, le 2 mai 1883, et toute la famille était là, et Ivan Turgenev s'est éteint dans les bras de Pauline Viardot, précisément ici dans cette pièce. Alors Pauline n'a pas souhaité faire le voyage jusqu'en Russie, Ivan Turgenev a légué son corps à la médecine, et donc sa dépouille a été transportée à Saint-Pétersbourg, mais avant qu'elle ne parte, il y a eu un dernier adieu qui a été organisé ici à Gare du Nord, à l'église Alexandre Nevski, à Rue Daru, également une messe qui a été organisée pour Ivan Turgenev spécialement. Alors Ivan Turgenev n'était pas croyant, ce n'est pas un orthodoxe, mais il avait fait tellement de bien, en effet. Il avait libéré, en 1858, comme le tsar, il avait donné la liberté à ses serfs. Il leur a donné de la terre et il leur a accordé une pension pour leurs vieux jours. C'est-à-dire que si toute la Russie avait pris exemple sur, en effet, l'attitude de Turgenev, on n'aurait pas eu l'histoire que l'on a connue par la suite, qui est une histoire tragique. Donc Ivan Turgenev a été reconnu ici en France, mais reconnu en particulier aussi en Russie. Lorsque sa dépouille est arrivée, regardez l'illustration de ce moment-là, il est absolument extraordinaire. 2 ans plus tôt, Dostoïevski, qui était décédé, qui avait eu un cortège de à peu près 80 000 personnes. Là, nous avons plus de 200 000 personnes présentes pour accompagner le corps du défunt. Plus de 220 délégations étrangères étaient présentes pour l'enterrement d'Ivan Turgenev.
On va terminer cette émission sur le balcon, au fond, de cette chambre de Turgenev, ici. Donc on est sur le balcon, ici, de la chambre de Turgenev, dans sa maison, avec un terrain très en pente. Sur notre droite, la végétation, les arbres, la forêt, terrain en pente, et puis la villa palladienne, la villa Viardot, sur laquelle, au fond, Turgenev, lorsqu'il ouvrait les volets de sa chambre, chaque matin, avait vu.
Absolument, il ne pouvait pas se passer de la présence de Pauline. C'est devenu effectivement un être incontournable, et réciproquement, Pauline a toujours eu une relation très, très affectueuse, très amicale avec Ivan Turgenev, et elle l'a prouvé tout au long de sa vie. En effet, c'est quelque chose de très fort, cette relation entre Ivan Turgenev et Pauline Viardot. Elle a été extrêmement bien exprimée à travers la sculpture que nous avons vue, où on voit Pauline Viardot regardant justement du côté du chalet et Ivan Turgenev regardant du côté de la villa.
Je me pleure.
когда меня не будет. Когда меня не будет, когда все, что было мною,
quand je ne serai plus,
рассыпется прахом,
oh, lorsque tout ce qui était moi sera dispersé en poussière,
oh, ты, который,
oh, toi,
я любил так
mon
глубоко
ami,
и так нежно,
aimé d'un amour si profond et
наверное,
si tendre,
переживешь меня,
toi qui, j'en suis sûr, me survivras,
не ходи на мою могилу,
ne viens pas sur ma tombe,
тебе там делать нечего,
sur ma tombe, tu n'as rien à faire,
не забывай меня,
ну, ne m'oublie pas,
не вспоминай,
mais aussi bien ne cherche pas mon souvenir parmi tes tâches quotidiennes,
удовольствие и нужд,
tes plaisirs, tes soucis,
я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять
je ne veux pas gêner ta
спокойной,
vie, entraver son paisible cours.
Но в часы уединения,
pourtant,
когда найдет на тебя,
aux heures de solitude, lorsque viendra sur toi inattendu et craignant d'être importune, cette tristesse si connue des cœurs tendres,
возьми одну из наших любимых книг,
prends un de nos livres préférés,
страниц,
et cherche-y les pages,
сроки,
les lignes,
слова,
les mots,
от которых бывало, помнишь, у нас
qui, tu t'en souviens, faisait au même instant
сладкие,
monter à nos yeux des larmes douces et muettes.
Слезы. Прочти.
Lis-les.
Закрой глаза.
Ferme les yeux.
И протяни мне руку.
Étends-moi la main.
Отсутствующему другу протяни
à l'ami
руку
absent.
Твою.
Tends cette main.
Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой.
Je ne pourrai la presser dans la
mienne. Она будет лежать неподвижно под землю.
Ma main inerte sera sous la terre.
Но мне теперь...
Mais aujourd'hui...
Отрадно думать, что, быть может,
il m'est doux de penser qu'à
твоей руке почувствуешь,
tu sentiras une caresse légère effleurer ta main, et tu me verras,
и образ мой предстанет тебе из-под закрытых век твоих глаз,
et tes larmes couleront de tes paupières closes,
слезы, подобно тем слезам, которые мне,
comme celles qu'autrefois, tous deux, émus par la beauté, nous avons versé ensemble,
вдвоем,
ô toi,
друг,
mon unique ami,
ты, которую я любил так глубоко и так нежно.
Toi que j'aimais d'un amour si tendre et si profond. Ivan Turgenev, décembre 1878.
Camille Saint-Saëns avait rêvé de Pauline Viardot pour chanter cette Dalila, mais lorsque le compositeur mit un point final à son ouvrage, la cantatrice avait mis un terme à sa carrière depuis déjà quelques années. L'œuvre tout de même lui fut dédiée et une fois, dans l'intimité de quelques amis, avec Saint-Saëns lui-même au piano, Pauline chanta des extraits de cet opéra, Samson et Dalila, c'était ici même d'ailleurs, à Bougival. Nous écoutions, nous, à l'instant, un extrait du deuxième acte avec Olga Borodina et José Coura, et c'est Colin Davis qui dirigeait le London Symphony Orchestra. Au musée Tourguenieff, chaque dimanche à 18h et jusqu'au 5 juillet, on donne des concerts et des récitals placés sous le signe de l'art de la romance. C'est l'occasion d'y entendre résonner le piano de l'écrivain russe, piano que l'on a entendu d'ailleurs dans cette émission sous les doigts d'Aminata Alenskaya. Et puis je signale également une pièce coécrite par Marc Zvigilski et Catherine Fantou-Gournay, Le Chant des Frênes. C'est 40 ans d'une relation entre Viardot et Tourguenieff, relation dont Maupassant a dit un jour qu'elle fut la plus belle histoire d'amour du 19e siècle. C'est Béatrice Trichet qui a enregistré et réalisé cette émission. Un grand merci à elle, à Mathilde Bosson qui l'a préparée, ainsi qu'à Alice Cachaner et Juliette Delperroux. Toutes les infos, la réécoute et le podcast, c'est sur francemusique.fr. À bientôt.